C'est la revue de presse des Hebdo. Salut Arlette.
Salut Léo et bonjour à toutes et à tous.
Les Hebdo sont-ils restés très branchés sur les manifs anti-réforme des retraites de la semaine dernière ?
Oui, mais pas plus que ça, je trouve. Alors évidemment, le Canard enchaîné titre « La lutte des crasses ». Ben oui, bien sûr. Mais après, dure leçon. Avec le vote, c'est la mêlée. Et sans le vote, c'est la zizanie quand même. Emtas, dans son édito, fait le compte des embrouilles et autres guéguerres qui minent tous les partis politiques. Il termine ainsi son mélancolique constat. Triste semaine. Ceux qui promettent de gouverner pour le peuple et par le peuple n'ont pas brillé par leur amour de la démocratie et le respect des militants. De quoi nourrir la détestation du régime des partis, ces machins en panne, à propos desquels on a quand même envie de crier « Vive leur vie, à bas leur mort ». Sur le même sujet, dans la Mare aux Canards, une question. Le PS s'apprête-t-il à jouer « plus moche la vie » lors du congrès qu'il va tenir à Marseille du 27 au 29 janvier ? La suite de l'article égrène toutes les anomalies qui ont entaché l'élection du premier secrétaire. Dans la Mare encore, un article qui examine avec attention les manœuvres des alliés de l'Ukraine afin de doter l'armée ukrainienne de tanks et autres matériels de guerre lourds, sans s'engager au-delà du risque d'une guerre étendue au reste de l'Europe. Du côté des retraites, on peut lire que la caisse de retraite complémentaire, Agirc-Arrco, gérée pour 40% par les syndicats, procède en loose-dé et depuis longtemps à des réformes qui amputent les retraites selon le dernier rapport du COR. Pour un euro cotisé, les droits acquis sont environ deux fois moins élevés qu'il y a 30 ans. Ah bon, c'est une bonne nouvelle. La dernière page est pleine d'infos passionnantes. D'abord les canetons qui cancanent. La France renonce aux néonicotinoïdes. Les betteraviers sont en colère. Pour compenser nos pertes, il faut taxer les ruches. Ensuite, quelques précisions utiles sur la poubelle la plus chic de la planète. Bure à encaisser. Et aussi, on apprend que le Sénat atomise les antinucléaires.
Mais pour toi, Arlette, c'est au Courrier international que les commentaires sont le plus intéressants.
Parce qu'il est toujours passionnant de savoir comment nous, Français, sommes perçus à l'étranger. Et Claire Carrard nous le dit dans son édito. La presse étrangère a largement commenté ce premier succès pour les opposants au projet. Et il semble bien que pour elle, la presse étrangère, si prompte à s'émouvoir de la propension française à manifester ou à faire grève, semble cette fois beaucoup plus compréhensive. Et encore, que la méthode du gouvernement de la vie générale a montré ses limites et qu'ils sont nombreux à prédire un long bras de fer et à mettre en cause la méthode du président français. Vous trouverez tous les extraits de la presse étrangère dans la chronique France d'un continent à l'autre. Le dossier à la une est consacré, lui, à un monde sans alcool. Dry January, Sober October, emmenée par une génération Z plus informée sur les dangers des addictions et plus soucieuse de son image. La sobriété gagne du terrain dans les pays occidentaux. Les lieux sans alcool se multiplient, les défis également. Au point, peut-être, d'ébranler ce totem de la culture occidentale, comme l'avance The Observer, mais aussi de transformer l'industrie des boissons qui doit s'adapter. À lire aussi l'extrait de l'article du New York Times sur le chat GPT de Microsoft. Le chatbot a répondu à des questions quiz, expliqué des idées et composé des paroles de chansons. Et toujours du côté des sciences, une bonne question. Comment notre cerveau arrive-t-il à apprendre de nouvelles choses sans écraser ce qu'il sait déjà ? C'est en lisant l'article de The Economist de Londres que vous apprendrez que d'après une étude réalisée par Dimitra Vardalaki, Wang Gun-Cheng et Mark Arnett du Massachusetts Institute of Technology, qui vient d'être publié dans The Nature, l'un des moyens pour le cerveau de gérer ce dilemme est de conserver, à l'âge adulte, un type de synapse que l'on trouve chez les enfants et qui forme les souvenirs. Elles sont appelées les synapses silencieuses. Et comment on les conserve, ces synapses silencieuses ? Eh bien, allez donc lire cet article en page 38 du Courrier.
Et à l'Express alors ? On commente ?
C'est Anne Rosencher qui s'y colle dans un édito plutôt surprenant. Je ne sais pas quand nous avons perdu le fil, quand tout ou presque est devenu confus, amnésique. Les séismes politiques en chassent d'autres. Les politiques naissent et repartent comme des crises d'urticaire. Tout tourne et tourbillonne. Quand soudain survient une crise sanitaire, géopolitique, sociale, nous sommes nombreux à éprouver la nécessité de prendre du champ, à vouloir tenter de capter l'image générale, débarrasser des outrances et des éléments de langage pour poser une question finalement simple. Où en est-on ? La mobilisation contre la réforme des retraites en fournit une occasion. Le détail technique est assez bien posé dans de nombreux médias. Comment évolue la démographie ? Est-il nécessaire de réformer ? À quel horizon ? Faut-il jouer sur l'âge ou sur la durée ? Intéressant, non ? Le dossier, lui, est consacré à la Russie. La faillite morale, la dérive délétère de cette grande puissance donne le vertige. Le responsable, Poutine, qui le 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine, a fait basculer son pays et l'Europe dans une guerre absurde. Pour analyser ce drame, le dossier est particulièrement documenté, argumenté. Voici les titres des chroniques qu'il compose. Crimes de guerre, soldats sacrifiés. En Ukraine, la stratégie mortifère de l'armée russe. Guerre en Ukraine, Sergueï Lavrov, grandeur et décadence de la diplomatie russe. Derrière la guerre en Ukraine, le naufrage moral de la Russie. Schizophrénie générale, intimidation en Russie, chronique d'un peuple apathique et désabusé. Guerre en Ukraine, sur Telegram, l'autre armée de Poutine. Anna Colin-Lebedev, pour les Russes, apparaître zombifié est une stratégie de survie. Guerre en Ukraine, pourquoi les chars allemands peuvent changer le cours du conflit ? Alors si vous vous intéressez à cette guerre, la lecture de ce dossier est absolument indispensable.
Le 1, lui, s'inquiète, qu'arrive-t-il à Israël ?
Voilà que pour la première fois de l'histoire israélienne, le cabinet de coalition dirigé par Benjamin Netanyahou comprend 8 ministres que l'on peut qualifier au choix d'extrême droite ou de suprémacistes. Comment en est-on arrivé là ? Et faut-il s'inquiéter du sort de la démocratie en Israël ? Alors des intervenants très divers pour répondre à ces questions. Delphine Orvilleur, essayiste et rabbin, livre son regard sur la nouvelle donne politique en Israël. Non, l'État juif n'a pas gagné contre l'État démocratique, pour la simple et bonne raison que l'un et l'autre sont les immenses perdants du virage actuel. Où va Israël ? C'est le thème du grand débat entre Eva Ilyouz et Alain Finkielkraut. La sociologue et le philosophe se disent tous deux inquiets de la situation en Israël. Si la première déclare « Je me sens comme une partie d'entre nous en Israël en deuil », je ne sais pas encore si ce deuil est celui de la démocratie. Le second se veut plus optimiste. Un mois après la constitution de ce gouvernement, affirme-t-il, toute la question est de savoir si Benyamin Netanyahou va modérer son extrême droite ou s'il en est l'otage. Vous trouverez aussi l'avis de Sylvain Sipel, journaliste, qui a longtemps vécu en Israël. La mentalité coloniale au fil du temps a triomphé. Mais, pour l'écrivain Edgar Keret, ce qui arrive aujourd'hui en Israël n'est pas propre à Israël. C'est ce qui se passe partout sur la planète. C'est le produit d'un monde où les communautés nationales ont volé en éclats et où votre plus grand ennemi n'est autre que votre voisin de quartier.
Le sommaire de Télérama semble bien t'avoir séduit plus que la semaine dernière.
Oui, c'est vrai. Beaucoup de sujets passionnants. Alors d'abord le dossier qui raconte en 6 exemples la petite usine du cinéma. Un film, ça se fabrique comment ? Le tournage, évidemment. Alors c'est Mai Wen qui raconte ce moment si particulier avec son film Jeanne du Berry, qui est en cours de montage. Les recherches, surtout quand il s'agit d'un biopic comme celui que tourne Maïmouna Doucouré sur Joséphine Baker. Mais au tout début d'un projet, il y a d'abord le scénario dont nous parle Rachid Jaidni. D-J-A-I-D-N-I, Jaidni. Il a dû défendre son scénario de dinguerie, c'est le titre de son film, à la soirée Raconte-moi, organisée par le groupe Ouest le 13 décembre 2022. Quentin Dupieux parle du décor d'un film. Pour lui, le décor a toujours été un personnage en soi. Il tourne un film, alors le titre, Dali. Il y a 6 A.
Il y a beaucoup de A.
Voilà, Dali. Caroline Vignal a tourné Iris et les hommes. Elle nous raconte sa façon de travailler le montage. D'abord le bout à bout qui constitue le brouillon du montage. Et pour finir, la promo, bien sûr. C'est Guillaume Canet qui s'y colle. Avec Astérix et Obélix, il ne devrait pas avoir beaucoup de mal. Mais pas sûr. Page 39. Victor Castanet, dont le livre édifiant « Les Fossoyeurs » sur la maltraitance dans les EHPAD provoquait un séisme l'année dernière, raconte comment, pour enquêter, il a dû déjouer bien des pièges. Et enfin, page 37, Laurence Fontaine, historienne, nous éclaire sur la fabrique des pauvres à travers les siècles. Reste que le mépris à l'égard des plus précaires persiste, dit-elle.
Et voici le moment que tout le monde attend, l'horoscope de Rob Brezny. Mais cette semaine, tu as choisi l'horoscope des scorpions, pourquoi ?
Ah bah parce que j'ai trouvé qu'il était le plus breznien, le plus poétique et le plus rigolo. Alors, cela risque de ne pas plaire à tout le monde, mais dans les semaines à venir, vous avez mon autorisation cosmique, scorpion, pour vous lancer dans ce qui pourrait s'apparenter à de l'appropriation culturelle. Vous n'aurez qu'à vous en prendre qu'aux astres. Ils me disent que pour libérer votre cœur et votre esprit, vous devez chercher l'inspiration et l'élévation dans un large éventail de cultures et de traditions. Je vous encourage donc à écouter de la musique d'Afrique de l'Ouest, à lire de la poésie chinoise, à contempler l'art des aborigènes d'Australie, chanter des chansons de la Kabbale, réciter des prières Lakota, fredonner des chants bouddhistes. Ce ne sont là que des suggestions. Votre imagination fera le reste à mesure que vous vous laisserez imprégner d'une myriade d'influences fascinantes qui vous étonneront, vous raviront et vous instruiront.
校园之声 88.1
Campus Bordeaux
88.1